you brought in 12 people to the decontamination camp instead of the evacuation center where they belong. I'd like to know why.
Because this means something.
Because this means something.
Les gens sont venus de partout dans le pays.
These people have come from all over their country.
Dans un endroit dont on leur a dit qu'il était dangereux pour leur vie.
To a place they have been told will endanger their lives.
Pourquoi?
Why?
Why?
Well, because somebody could be trying to subvert this whole operation by sending in fanatics and cultists and Christ knows what all.
Robert?
Yes?
Thank you very much. Il s'agit d'un petit groupe de gens.
This is a small group of people.
Qui ont eu la même vision en même temps.
Who have shared a vision in common.
Yeah. Look.
Moi non plus, je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais bien qu'on m'explique tout cela.
I don't know what's happening either, and I must find out what's going on.
Je crois que pour chaque personne inquiète, angoissée, tourmentée qui est venue ici,
I believe that for every one of these anxious, anguished people who have come here this evening,
il y en a des centaines d'autres qui ont reçu la même vision et qui ne sont pas là.
There must be hundreds of others also touched by the implanted vision who never made it this far.
Simplement parce qu'elles n'ont pas regardé la télévision.
It's simply because they never watched the television.
Ou bien elles l'ont regardé, mais elles n'ont pas établi de rapprochement.
Or perhaps they watched it, but never made the psychic connection.
It's a coincidence. It's not scientific.
Listen to me, Major Walsh. It is an event sociological.
Tony.
Hi.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Et pourtant, j'étais fatigué.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Oh, nom de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, ton cul, c'est mon génie.
Répondez-moi, les mecs.
Ensemble partiellement polarisé de pulse, amplitude modulée. Tout est verrouillé, les systèmes reçoivent le signal sur le tableau. Quelle est la fréquence?
4.46, 23 GHz. Hydrogène fois pi. Je te l'ai dit.
Il est puissant, le connard. Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Pile dessus!
Fais-le-moi entendre. Écoute ça.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Qui est là pour vous proposer une émission aujourd'hui consacrée en partie, on va démarrer par ça d'ailleurs, à l'événement hein, quand même, la sortie du dernier film de Steven Spielberg qui cause d'extraterrestres avec John Williams, toujours à la musique. Je dis ça parce que j'en profite quand même vachement, on sait bien l'un comme l'autre que... On est toujours à deux doigts d'assister à la dernière collaboration en fait entre deux grands noms en fait,
voire pire. Et ça nous pend au nez cette histoire.
Et j'évoque ça comme ça parce que évidemment moi quand on nous annonce des projets tel ou tel projet concernant Spielberg, concernant John Williams, tant que c'est pas sorti en salle, j'y crois qu'à moitié en fait quoi. Enfin à l'existence même du projet. Donc là j'étais ravi et très excité à l'idée de me dire en 2026 je vais pouvoir aller au cinéma qui pisait à l'Arvor puisqu'il sortait à l'Arvor le film et voir la dernière collaboration Spielberg, Cop en plus qui est donc le scénariste aussi de De Palma et puis de quelques pas des forcément des meilleurs films de Spielberg, mais il a quand même fait des trucs pas mal avec lui, et puis John Williams qui est toujours là et qui va nous proposer quelque chose. Donc on y va avec un petit peu d'appréhension, notamment après tes premiers retours à toi qui étaient un peu plus négatifs hein, lapidaires d'ailleurs à ce sujet. Et je te laisserai évoquer bien évidemment tout ton ressenti sur cet objet, mais je me permets parce que j'ai la parole de dire que
fais-toi plaisir mec.
Bien heureusement, j'étais pas aussi négatif que toi sur ce dernier opus spielbergien. qui est pas mon cinéaste préféré, mais il empêche que ça sera toujours un cinéaste extrêmement important, qui était là bien avant moi et qui sera peut-être même là encore après, on sait jamais.
Son père est mort à plus de 100 ans, donc il a un bon bagage génétique.
Et il m'a l'air encore suffisamment en forme pour continuer, quoi. Moi, j'attends qu'il fasse enfin son western qu'il voulait faire, et voilà, j'attends de voir le western de Spielberg. Donc non, bien évidemment, je vais pas faire du rétro suspense, c'est pas le meilleur film de Spielberg, on est loin d'avoir affaire à son chef-d'œuvre. Et je le dis tout de suite aussi par rapport à John Williams, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à m'intéresser à la bande originale. Je l'ai réécouté après coup en me disant c'est une bande originale de John Williams où il ne fait pas de thème.
Là,
où...
je l'ai écouté cet après-midi, ça m'a endormi.
C'est-à-dire que ça aurait pu être du Jerry Goldsmith, j'aurais pas forcément vu la différence, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver justement le sens mélodique déjà de Williams, en fait. Et puis même si je retrouve un petit peu son orchestration, bien évidemment, mais cette orchestration, elle aurait pu provenir d'un autre. Et là, pour le coup, c'est ma plus grosse déception du film, je pense. Et je me laisse l'occasion quand même de me repencher dessus, de la réécouter. Peut-être, je me suis dit,
Après, je suis trop con
et que je suis passé à côté, que c'est trop subtil pour moi.
Je pense que c'est ça. En fait, c'est que t'es trop con parce que en la réécoutant quand même si je suis pas fan, elle est presque à l'image du film. C'est qu'en fait, elle est conceptuellement assez intéressante parce que en fait, elle est un peu anti-mélodique quelque part parce qu'en fait, elle ne raconte que deux. J'ai l'impression, je suis pas musicologue, hein, mais que c'est deux thèmes un peu contraires qui se confrontent dans chacun des morceaux et tout ça. Qui trouvent leur accord, quoi, et bon, qui correspond évidemment à la thématique du film, mais au final, ça donne un morceau qui est plus. Alors, ça va pas dans la dissonance, faut pas exagérer non plus, mais il y a quand même quelque chose qui est conceptuellement assez pensé, je pense.
Je me doute bien que ça soit de la part de Williams comme de Spielberg, je les prends pas pour des cons, et je me dis et en plus de ça, ils ont eux suffisamment, je pense, de pouvoir pour pouvoir proposer ce qu'ils ont envie de faire. Donc tout ce qu'ils proposent là, que ça soit le cinéaste comme d'ailleurs ils maîtrisent pour moi. C'est-à-dire que c'est pas un film de producteur ou quoi que ce soit. Je pars sur le principe qu'ils maîtrisent tous les deux. Mais John Williams, je suis aussi convaincu que même si c'est ça son projet et c'est sans aucun doute ça, qu'il est capable aussi de mêler en fait justement son talent mélodique et conceptuel à un niveau au-dessus et y compris dans Fabulous Man ou des précédents de Spielberg. Il le faisait très très bien, c'était pas le même concept, mais ce talent mélodique, il apparaissait là en fait, et il est capable à la fois de faire une musique comme Fableman, justement très simple au piano, un petit thème, quelques notes qui est bouleversant, c'est merveilleux la bande originale de Fablemans, et à côté pour des films comme La Guerre des Mondes par exemple, que je vais pas aller écouter chez moi parce que c'est pas une de ces musiques vraiment chaleureuses et qui fait plaisir, c'est pas Jurassic Park ou des trucs comme ça, mais malgré tout il y avait quelque chose d'un peu plus puissant là. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous, et y compris dans la dans le film, dans le mixage du film, en fait j'ai trouvé très en dessous en fait, quoi. Ça faisait un petit peu nappe alors qu'on a affaire à du John Williams, quoi. Donc déception à ce niveau là déception peut-être aussi en termes de spectacle. On est très loin d'avoir un spectacle qu'on peut attendre. Enfin, quand on s'imagine un film d'extraterrestre par Spielberg aujourd'hui, en fait, avec en plus les idées qu'il avance, enfin, dans son scénario, on pouvait s'attendre.
Ça part aussi comme une grosse scène, une grosse poursuite de 2 heures, quoi. Aussi, enfin, c'était un petit peu le truc qu'il disait, quoi. C'est quand même une course poursuite.
De 2 heures, mais qui se passe principalement dans des pièces où ils sont assis et discutent. Il évite en fait justement les séquences. Sur la route,
oui.
Mais en termes d'écriture, c'est très intéressant, hein, et moi le film me plaît beaucoup en fait par ce qu'il raconte justement et par je pense l'intention qu'il y a là-dedans. Évidemment, pour moi, il parle de cinéma, il évoque le cinéma, il évoque la foi dans le cinéma, et ça me plaît toujours ce genre de film. C'est un peu comme Mel Gibson quand il parle de foi, pour moi c'est la foi dans le cinéma. Il peut bien m'évoquer Jésus ou quoi que ce soit, voilà. Et là c'est pareil quand il m'évoque la croyance et toutes ces images de croyance, de foi dans le film, et il en regorge quand même. Pour moi c'est le cinéma. Quand il y a une séquence de train dans un Spielberg qui parle de ça, pour moi ça parle, le train c'est l'image du cinéma aussi, quoi. Ça l'intéresse de plus en plus, j'ai l'impression. Et là-dedans, en partant sur l'idée que justement, il nous parle de cinéma, de croyances et de croyances vers des possibles mondes qu'on n'a pas vu. Donc l'extraterrestre, ça machin. Qu'est-ce qui met au centre de tout ça, le plus important pour justement parvenir à la rencontre avec cet autre merveilleux, parce qu'on reste dans le domaine du merveilleux quand même. C'est l'empathie. Du coup, c'est là où il va vraiment appuyer le truc. Le plus important, ça va être l'empathie et le super pouvoir donc de l'héroïne. On n'a pas évoqué le sujet du film particulièrement, mis à part le fait que c'était des extraterrestres. Mais voilà, il y a ce super pouvoir qu'elle peut avoir de rentrer en contact direct en fait avec l'autre. Et c'est son super pouvoir, ce qui en fait à moi le meilleur super héros que j'ai pu voir depuis je sais pas quand. Et je me suis dit, mais je trouve ça super, avec justement tous ses pouvoirs, avec tous ses talents.
Ah, c'est une sorte de dérivé en fait de E.T., parce que E.T. c'est aussi son super pouvoir. En fait, la relation entre Elliot et E.T.,
c'est pas la première fois qu'il évoque ça, Spielberg. Hein, il a déjà évoqué ça dans pas mal d'autres films. Hein. Et même Soldat Ryan, en le revoyant, tu dis, Soldat Ryan, le trajet des personnages, c'est quand même à un moment donné de parvenir à justement s'intéresser à cette personne et à apprendre à la connaître pour pouvoir et ça c'est un truc qu'il a fait régulièrement c'est un peu explicité. Alors c'est peut-être le dommage même que ça soit explicité par certains dialogues, alors même que le pouvoir même d'Emily Blunt dans le film suffisait pour moi à justement il va l'expliciter deux trois fois dans des dialogues. C'est ce que je reproche peut-être un peu au film, moi, c'est de se reposer un peu trop justement sur des dialogues pour raconter des choses, et de la part de quelqu'un comme Spielberg, et on reconnaît encore son talent de metteur en scène dans ce film-là, et même si c'est pas son meilleur, franchement ça fait beaucoup de bien de voir ça aujourd'hui au cinéma et de se rappeler que via la mise en scène il se passe plein de choses, et que ça il est capable lui toujours, et le cinéma est toujours capable de nous proposer des vraies idées de mise en scène. Moi ça m'a fait beaucoup de bien
et ça c'est presque son côté qui correspond, on va dire, à moi, dans ma lecture à moi, à l'autre super pouvoir qui est convoqué, qui serait le super pouvoir des mathématiques que maîtrise donc du coup le personnage de Josh O'Connor, qui lui est capable de lire le réel à travers des équations. Alors je sais plus ce que c'est l'expression dans le film, mais voilà, c'est la musique du monde qui serait les mathématiques.
Il faut combiner les deux justement.
Il faut combiner les deux. Effectivement, on peut se dire que là il y a vraiment une autoportrait qu'on pouvait déjà voir dans The Fabelman, et qui est très biographique de la part de Spielberg, parce qu'il avait un père ingénieur et une mère musicienne. Mais que c'est vrai que moi c'est ce qui fait en tout cas le grand plaisir en termes de spectacle et de ciné-génie des films de Spielberg, c'est que c'est une façon de mettre en scène qui est mathématique. Ça dirait quelque chose d'un petit peu froid à la Kubrick ou quelque chose comme ça, mais c'est une façon de calculer tout ce qui se passe dans le cadre, d'être hyper économe dans tout ce qui se passe dans le cadre, pour que les informations atteignent le spectateur de façon la plus fluide, la plus en communication directe avec lui, qui fait que le réel est complètement capturé dans une image la plus lisible possible, la plus synthétique possible, qui fait que on a le plaisir d'une compréhension immédiate de ce qui se passe, et aussi le plaisir du pur mouvement, quoi.
Il dit que les mathématiques sont justement un langage, une façon de communiquer dans Disclosure Day, en fait, parce que justement le langage qu'on va entendre des extraterrestres, qui est une sorte de morse, va pour cet autre personnage, ce second personnage principal, être justement une langue limpide que lui il comprend comme si c'était sa langue maternelle.
Ouais, écoute, moi en tout cas je suis en même temps d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que moi après le truc qui m'ennuie dans le film, enfin il y en a plusieurs. Je suis moins vindicatif maintenant que je l'ai été en sortant, mais c'est vrai que le truc qui m'ennuie vraiment dans le film, et que je suis allé revoir mais pas dans son intégralité, c'est que je trouve que c'est vraiment moi, de Spielberg, que je considère comme vraiment un des plus grands réalisateurs américains, j'attends de lui la brillance du cinéma spielbergien, c'est-à-dire que faut que le spectacle soit assuré, il faut qu'il y ait vraiment ce côté-là qui soit là où il est le meilleur. ailleurs. Là où ce pourquoi les foules se sont précipitées vers ces films, c'est que ce sont des spectacles qui sont absolument incroyables, qui sont tout ce que je disais un petit peu, d'une mise en scène d'une efficacité redoutable, extrêmement synthétique, et qui correspond à, en tout cas, ce côté-là de son cinéma. Il y a aussi le côté un petit peu émotionnel, hein, voilà, chez Spielberg, qui fait que les foules, on peut le taxer de sensiblerie, mais en tout cas le public est très sensible à ces films, et puis à moi aussi. Là, j'ai trouvé que le côté spectacle, ça marchait pas du tout. En fait, je vais essayer d'être un peu construit là-dessus, mais c'est vrai que
intérêt, ouais.
Spielberg, en fait, il y a un côté. J'étais toujours étonné depuis Minority Report de voir que le mec, le copain à lui de sa génération, dont il se tendait à se rapprocher le plus, c'était De Palma. C'est vrai que ça sautait vraiment aux yeux sur un film comme Minority Report, hein, qui était vraiment une sorte de film qui était de palmien en diable dans son discours sur les images et tout ça, et qui aussi qui correspondait aussi à une période de la carrière de Spielberg qui était une période de la crise de foi, vraiment la période post 11 septembre chez Spielberg. C'est une période sur laquelle on est déjà revenu, hein,
mais son rapport aux images est fascinant.
Il a aligné pour moi là une série de chefs d'œuvre hallucinants entre A.I., Minority Report, La Guerre des Mondes, Arrête-moi si tu peux, mais qui correspondait à une période vraiment de la crise de foi totale dans les images. Alors, vous voyez, Arrête-moi si tu peux l'autre fois, c'est vraiment un film qui aussi qu'on peut prendre comme un autoportrait, comme quelqu'un qui justement sur un portrait d'un personnage qui est devant une maîtrise totale de ce que peut être la manipulation des images, c'est-à-dire quelqu'un qui sait très très bien se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas.
De la représentation, et qui a
le génie, la virtuosité de ça, mais qui est complètement habité par une sorte d'abîme intérieur qui dit mais en fait je ne suis qu'une carapace vide vide à l'intérieur, parce que de toute façon je suis capable très bien de donner aux gens ce qu'ils veulent, mais par contre il n'y a rien qui m'habite intérieurement et je ne suis que qu'apparence, quoi. Donc moi je le voyais vraiment comme une sorte de on peut le lire en fait, Arrête-moi si tu peux, comme une sorte d'aveu d'échec un peu noir de la part de Spielberg qui dit j'ai cette virtuosité là, voilà ce que c'est le revers, c'est aussi d'être suradapté à toutes les situations, de pouvoir toujours tout rendre absolument magique, et au fait, au final, peut-être que j'ai pas grand chose, tant de choses à dire que ça. Donc bon, moi le Disclosure Day, je trouve que j'essaie de raccrocher les wagons aussi avec le truc de Palma, c'est que De Palma, qui est un cinéaste que j'adore, De Palma, il a toujours été génial quand il faisait des films où son métadiscours théorique et plutôt conceptuel était souterrain par rapport à une carapace qui était celle du genre, le thriller, le film d'horreur,
Mission Impossible,
Blowout, Les Incorruptibles, et puis d'autres films, Obsession, qui sont des films qui sont peut-être un peu flamboyants plastiquement, il y a un côté un peu baroque, mais qui au final l'intrigue fonctionne quand même au premier degré, le feuillet, enfin tout ce qui est la force dramaturgique du film au premier degré. Le sous-texte, lui, se met, on peut très bien ne pas le voir, qu'on peut très bien voir Mission Impossible et se dire c'est un cinéma d'action sans se rendre compte absolument que c'est un grand film sur le cinéma. Évidemment, c'est souterrain. Mais De Palma, plus il avançait, plus il a fait des films aussi où la carapace s'étiolait, au final le côté conceptuel prenait le dessus. Exemplairement, c'est Femme Fatale par exemple, ou Snake Eyes, non pas vraiment, mais Femme Fatale, il y a vraiment ce truc là où c'est vraiment c'est un traité de théorie, quoi, sur les images et tout ça, et au final tu dis ça, ça marche pas trop.
Dans ses premiers films, hein, ces pastiches de Hitchcock
et les premiers, la première période de Palma, c'est exactement ça, on dirait des pastiches plus de Godard que Hitchcock d'ailleurs, hein, c'est vraiment très très vraiment auteur, quoi. Chez Spielberg, à la réflexion, j'ai l'impression que ce que je pourrais reprocher au film, c'est par rapport à ma première avis quand j'ai vu le film, je me suis dit putain, c'est vraiment un échec total. Moi, j'ai eu zéro émotion, je me suis endormi sur la fin.
Exactement, je crois que tu m'as dit. je t'ai demandé, comment le Spielberg ? C'est nul.
C'est vraiment, j'avais trouvé ça nul. Et parce que il y avait vraiment ce spectacle qui ne marchait absolument pas. pour des raisons et d'autres, hein, c'est un peu, ça serait un petit peu fastidieux d'énumérer tout, puis c'est pas forcément intéressant, mais c'est vrai que bah, moi, la suspension d'incrédulité, elle fonctionne pas, les Men in Black, là, ils sont nuls à chier, les gens arrivent à se faufiler, c'est au mépris de tout réalisme, les scènes d'action sont assez pauvres, les effets visuels sont un peu ratés, en tout cas, les animaux et tout ça, tout ça, c'est un peu raté, toute la carapace du spectacle, pour moi, elle ne m'invite pas à une immersion totale dans le film. À la deuxième vision, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est clair et net que ça ne l'intéresse pas du tout, le truc de l'action. C'est clair et net que si les animaux sont ratés, c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est fait exprès pour qu'on se rende compte que ce ne sont pas des animaux, c'est aussi son discours sur le faux, sur des animaux qui sont en fait des sortes d'avatars des extraterrestres qui créent. C'est clair et net que des scènes qui sont contre-productives dans le récit, genre un moment où la nana essaie de péter son portable trois fois et que ça dure quand même 1 minute 30 dans le film, dans une scène d'action, tu dis c'est quand même un peu bizarre ce truc-là. Tu dis bah oui, il y a un vouloir dire énorme là-dessus. Donc il y a beaucoup et il y a tout un réseau de symboles et tout ça qui me
la
paraît
trinité,
pas opérant.
Tout ça,
la trinité, c'est bon. Un côté conceptuel, musique,
c'est un peu lourd,
ouais. La mathématique et tout ça. Après,
le discours prend le dessus sur
voilà,
le spectacle.
Le discours un peu prend le dessus. Chose auquel, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais un petit peu étranger à ça, si ce n'est de voir la dimension extrêmement personnelle, parce que voilà, il y mettait le truc, mathématique, musique et tout ça, chose qui l'a couru. Et aussi, il y avait ce truc qui m'a vraiment gêné, qui me gêne encore, c'est de voir une sorte de best-of un petit peu de tous ces films. C'est-à-dire qu'on a quand même droit à... Lui, Spielberg disait beaucoup que c'était le film auquel il aurait voulu que Rencontre du troisième type ressemble dans les années 70, qu'il a toujours voulu faire.
Bon, qui le ramène au film de complot aussi, hein, c'est-à-dire que le film se fait accuser de complotisme. C'est vrai qu'on est autour du cinéma de complot. Il y a la figure de Nixon, il y a Roswell, il y a tout un tas de choses.
Bien sûr, c'était déjà
qui
le projet,
ramène,
voilà.
Mais Spielberg, il n'est pas à sa place, je pense, dans ce cinéma-là.
Non, carrément pas. Il a pu créer une imagerie là-dessus, hein, l'imagerie de E.T., des mecs à la au trousseau de clés, tout ça. C'est
ça,
un truc qui a été repris même dans X-Files.
C'est une vague figure dans le fond, en fait. C'est pas des personnages de cette génération,
en tout cas.
Il aurait pas pu faire du Pacula quand il fait The Post, par exemple. On n'est pas dans un film des années 70,
c'est ça,
on est dans un film des années 50.
Qui a pu lui être reproché aussi pour tous les contempteurs un peu de Spielberg dans le cadre du cinéma des années 70, c'est que c'est sûrement évidemment le cinéaste le moins politisé à cette époque-là, celui qui est le cinéaste de la restauration du cinéma américain
des années 50, unanimiste, 30 et 50.
En tout cas très très de l'émerveillement et compagnie contre un cinéma des années 70 qui lui serait plus critique.
Il n'est pas particulièrement ancré dans le réel, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de Spielberg qui nous parle du monde contemporain particulièrement, même si la crise des images est ce qu'il fait après 2001, là pour le coup c'est cette petite parenthèse désenchantée mais pertinente qu'il a pu avoir. Je me permets d'avoir le micro pour revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que je me suis posé des questions à ce sujet. Tu avais évoqué régulièrement notamment par rapport à Arrête-moi si tu peux, cet aspect syndrome de l'imposteur et coquille vide qu'il peut y avoir dans le personnage de ce film, et qu'on pourrait retrouver régulièrement, je pense, dans des personnages qu'il peut avoir. Même j'ai revu Soldat Ryan par exemple cette semaine, et le personnage principal de Tom Hanks a quelque chose de similaire, justement, quoi, où pendant les deux tiers du film il refuse d'exprimer, de dire d'où il vient, des trucs comme ça, et je retrouvais des choses comme ça, et en fait en revoyant aussi AI et puis d'autres choses, en repensant à d'autres films qu'il a pu faire, en utilisant à chaque fois des personnages principaux différents, des figures très différentes, et accompagné d'un documentaire que j'ai découvert sur Arte, qui est toujours disponible sur Walt Disney, qui revenait notamment sur pourquoi Walt Disney avait vraiment très envie de faire un long métrage d'animation avec Blanche-Neige et les Sept Nains. Il voulait prouver aussi qu'à l'époque, on pouvait être ému par une figure animée. Il n'y avait pas besoin d'un acteur, et qu'on pouvait être ému par de l'animation. Et en revoyant les Spielberg et justement l'étendue de personnages principaux différents qu'il peut exploiter, lui, dans ses différents films, avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir, avec toutes les formes d'autisme un petit peu que peuvent avoir ces personnages, et notamment justement le personnage de DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, mais ce personnage d'enfant robot dans AI, on peut faire toute la liste.
Il y en a un bon paquet.
Et j'ai eu le sentiment quand même à chaque fois qu'il se lançait le défi de se dire, mais tiens, on va pouvoir exploiter en fait n'importe quel médium en tant que personnage principal pour véhiculer de l'émotion, pour permettre au spectateur justement de s'attacher au film et d'être ému et d'être embarqué quand même par une histoire et une aventure. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il est en train d'exploiter des personnages, des figures qu'il n'a pas encore exploitées. Et ce doublon, ce couple qu'il aborde dans Disclosure Day, avec justement cette figure mathématique et cette figure plus émotionnelle qui sera dans l'empathie pure et totale, tous les deux avec deux formes de super pouvoir quand même, c'était quelque chose de nouveau. Donc évidemment deux formes qui peuvent correspondre grosso modo à son cerveau un petit peu différent des autres en fait. Donc on reste dans l'autoportrait, mais voilà, essayer justement de permettre au spectateur de comprendre comment son cerveau fonctionnait et jusqu'où il avait envie d'aller. Donc en effet, enfin il y a quelque chose de vraiment intime dans ce projet-là, alors même que c'est pas lui qui écrit le scénario, hein. Je sais pas comment ils ont fait pour bosser le machin.
Voilà, le scénario a été écrit par David Koepp, mais effectivement, et c'est un film qui répond aussi pas mal à Fablemans, évidemment, qui est dans la même lignée au final, parce que.
Mais c'était avec des parents, et du coup, on les observait parents, de loin, c'était pas mais, eux qui étaient.
Mais bon, la dimension personnelle, c'est vrai que quand je dis il y a une période de crise de foi dans les années 2000, quoi, là, on est plutôt dans une période où il est en train de s'assumer.
Oui.
Il y a un côté très égotrip, hein, je pense. Hein,
complètement.
En tant que génie, enfin, vraiment. Alors, moi, c'est vrai que ça me gêne. Ça me gêne moyen, parce que
j'ai trouvé plutôt humble, au contraire. Enfin, il y a une, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'humilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de montrer à la face du monde, regardez ce que je suis capable de faire. Bien au contraire. Mmh. Et le fait qu'il y ait très peu de séquences d'action, par exemple dans le film, il y a la séquence du train, qui pour moi le train, c'est le cinéma justement. Il faut, si on fait un film sur le cinéma, dans le cinéma de Spielberg, faut qu'il y ait un train quand il produit Super 8, c'est pareil, tu vois. Mmh. Le train, ça représente justement, c'est la Ciotat. C'est voilà, on est dans l'histoire du cinéma en fait, et le film pour moi parlait de cinéma, de comment représenter les choses, et il y a beaucoup de symbolique. Le film est bourré de symbolique, des symbolismes qui renvoient évidemment à toute sa carrière à lui, il peut se le permettre, je veux dire, il a créé suffisamment de choses, et c'est peut-être la chose par contre qui manque principalement à ce film-là, mais c'est peut-être là la marque de l'humilité justement dont il fait preuve, c'est le manque d'iconicité en fait. Ce qui nous marque, nous, beaucoup, ce qui nous a profondément marqué avec le cinéma de Spielberg, c'est l'iconicité, c'est la persona d'Indiana Jones, de symbole, c'est même le Jurassic Park, c'est les Dents de la Mer, c'est bourré d'iconicité. Voilà,
c'est ça, et là il n'y en a pas en fait. Il sait très bien créer une image, il sait très bien créer une attente avant que cette image-là, le fameux plan spielbergien le plus connu de tous, c'est ce plan en légère contre-plongée de quelqu'un qui regarde quelque chose qui l'ébahit. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ces films, mais effectivement, et là c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un peu.
Là il n'y a pas d'iconicité,
si ce n'est que le truc qui est en attente d'être regardé, sur lequel il y a un horizon d'attente, c'est que c'est cet alignement de vidéos que le gars trimballe dans son truc, et qui sont plutôt des images de type documentaire.
Mais c'est Roswell, c'est le documentaire de Roswell. Moi j'attendais, on aurait dû passer ça, les commentaires de Jacques Pradel.
Exactement. mais ce qui est marrant, c'est que ce truc-là, en fait, correspond à. Parce qu'il y a pas la carrière de Spielberg, on peut même parler les carrières de Spielberg, c'est assez riche. En fait, il y a plein de veines un peu différentes. Mais.
La même année, il fait Jurassic Park et la liste de Schindler. Voilà, enfin, faut voir qu'il y a
La même année, et puis le même moment, quoi. Et, de toute façon, c'est toujours hallucinant, cette histoire de savoir qu'un mec est en train de faire Jurassic Park, en train de faire de la liste de Schindler en supervisant les effets spéciaux de Jurassic Park en pleine Pologne. Là, tu dis, ça doit être bizarre dans sa tête, quand même, de faire deux films sur deux parcs. c'est hallucinant.
On va encore avoir des ennuis.
mais c'est vrai que la veine de Spielberg, quand il a cherché un petit peu la reconnaissance de l'académie, on va dire, et qui commence peut-être,
c'est
tu vois, avec l'Empire du Soleil, La Couleur Pourpre, la liste de Schindler, qui a pu se prolonger un peu plus tard. Moi, j'ai revu
Lincoln, de son pays aussi,
mais qui est dans une période où on voit bien que la mise en scène de Spielberg, bah, il filme pas la liste de Schindler comme le Jurassic Park évidemment, ou comme Hook et tout ça. Évidemment, il a un côté, plus sobre dans les mouvements de caméra sur plein de choses, quoi. Il y a moins cette volonté de créer justement cette fameuse iconicité d'image impérissable et tout. Donc après, voilà, je me suis demandé après, voilà, si vu que tout le discours du film, la fameuse disclosure, la révélation, c'est au final des images de type documentaire, si voilà le caractère de voyant qui est celui des deux personnages principaux, qu'on pourrait rapprocher de Spielberg parce que c'est un voyant dans le sens où c'est quelqu'un qui a créé des images adulées depuis 50 ans, ou il a créé des images un peu inédites dans le cas du cinéma américain. Il a réussi à mettre en forme, à extérioriser des trucs qui l'habitaient. Donc c'est un voyant qui s'est réalisé. Il a pu porter ça, mais c'est aussi quelqu'un qui, d'un autre côté, a voulu être non pas un voyant, mais un témoin, quoi. Qui a voulu lui témoigner d'une réalité du monde, l'esclavage, la Shoah, voilà, de d'autres, enfin le pour Munich, voilà, des événements de tension entre Israël et la Palestine, voilà,
les événements,
il y a des événements comme on dit, et voilà, il a voulu quand même aussi, il a cette voix là, c'est pas, il y a la voix de l'imaginaire et la voix du truc. Et, bon, la fin de Disclosure, vu que bon, les extraterrestres sont plutôt traités de façon, voilà, ils sont non pas hors champ, mais voilà,
c'est de la figuration, plutôt, quoi.
C'est une sorte de figuration, et puis ils sont pas montrés dans le même émerveillement.
C'est ce qui représente, qui est important pour lui,
dans Rencontre du troisième type, où c'est des silhouettes, quoi.
C'est et voilà, ils existent. Comment on fait pour cohabiter avec eux? Et juste ce que j'y pense. Donc il y a quand même un personnage qu'on n'a pas évoqué dans Disclosure Day, c'est ce personnage de metteur en scène.
Les deux, parce que les deux sont des metteurs en scène.
Non, mais celui qui est vraiment en train de créer un décor.
Oui.
C'est-à-dire qu'il commente, il commande les personnages principaux, il leur dit où est-ce qu'ils doivent aller, comment ils doivent faire. Il leur indique des choses comme un metteur en scène. Ouais. On voit derrière lui en fil rouge qu'on est en train de construire un décor. Donc c'est le décor de la maison d'enfance de d'Emily Blunt. Voilà, il y a cette figure-là de metteur en scène qui est inclus, qui moi m'a paru un peu lourde pour le coup, quoi.
Mais bien sûr, parce que
et qu'il a déjà fait recréer cette maison d'enfance. Non, en effet, on est dans un film justement, voilà. Mais il a déjà fait dans AI aussi, quoi. Et c'est les extraterrestres qu'il faisait.
Et dans Ready Player One, tout le film de la.
J'ai oublié Ready Player One.
Alors après, c'est vraiment le côté un petit peu. Peut-être freudien, peut-être très limité freudien de Spielberg, de toujours tout réduire le mystère de l'humanité à la chambre d'enfance, alors, qui correspond à sa propre expérience et tout ça, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ses films. Voilà, évidemment, c'est un grand cinéaste de la
chambre. C'est son décor principal.
Dans Ready Player One, la fin, le secret, c'est dans la chambre d'enfance.
Oui, mais là, tout repose sur cette chambre d'enfant.
Il y a ce truc-là.
Je suis surpris qu'il n'ait pas fait un film sur Michael Jackson.
De toute façon, il y avait forcément un projet.
On va vraiment avoir des ennuis avec cette émission.
Mais en tout cas, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Mais en fait, oui, il y a quand même deux personnages de metteur en scène. Parce qu'effectivement, il y a celui de la révélation, celui qui est le metteur en scène qui veut externaliser ce truc dont seulement dans le discours du film, vraiment, il faut que tout le monde sache. Il faut montrer ces images-là. Il faut créer les conditions pour que ces images puissent être vues. Et celui qui est quand même le metteur en scène, mais quand même de la dissimulation. Celui qui veut tout régenter et tout ça, mais qui est plutôt celui de la dissimulation. Alors c'est pareil, hein, si tu veux réfléchir conceptuellement, tu dis bah oui, c'est vraiment un film sur le cinéma, parce qu'il y a vraiment les deux trucs là. Mais c'est aussi
c'est ce que lui il a proposé dans son cinéma.
Oui, parce c'est aussi le roi de la dissimulation, parce que si les images de Spielberg sont si impactantes, enfin tout est dans Indiana Jones. Il dit ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Et les Dents de la Mer, évidemment.
Ne regarde pas, mais il nous le montre, il fait un peu son Ford. Hein,
mais en fait, c'est ça.
Faut imprimer la légende, mais n'empêche qu'il nous a montré la réalité.
Exactement. Mais voilà, les Dents de la Mer, on voit rien. Mais voilà, c'est hyper impactant. Voilà, donc il est dans ce truc-là, donc ça rentre en résonance en tout cas avec le reste, avec sa pratique de la mise en scène, ça c'est une évidence. Et en même temps, moi, je trouve qu'en écriture, les deux personnages, et là, je reviens à peu près sur ce que je disais, où je me dis, ah, le film marche pas, c'est qu'en fait, le personnage du méchant, joué par l'autre quiche, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un acteur que j'aime pas, la Colin Firth, et celui joué par Colman Domingo, bon, là, on est dans un dispositif qui est quand même le gentil et le méchant, quand même.
Je me serais bien passé de ces deux personnages-là.
Très, 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 très appuyé, quoi. Si, ouais. En même temps, la seule façon d'accepter ce truc-là, il est uniquement conceptuel, quoi. Enfin, vraiment, parce que le personnage du méchant, il est pas très, enfin il est pas très intéressant en tant que méchant,
non. Mais le gentil non plus, hein. Gentil n'est pas intéressant, mais si, ce metteur en scène n'est pas
ça correspond à un truc de conte, en fait, ce truc là c'est vraiment le méchant sorcier et le gentil magicien. C'est vraiment, il y a vraiment ce truc là, quoi.
Oui, tu changes leur costume et puis
c'est vraiment ça. Si tu le mets, vu que le film il est traversé aussi par ça, enfin ça finit, enfin la scène de finale, c'est à une sorte de reprise dans Hansel et Gretel,
mais de toute façon on est dans le conte avec les animaux, le tout ça,
mais en fait on est dans le conte pas uniquement juste quand les animaux, c'est qu'on est dans le compte, dès le départ, quoi. C'est après il y a des trucs, moi je m'explique, non, pas
il est le cul entre deux chaises, justement parce qu'on est justement dans une forme de compte, mais il essaye de nous faire croire en termes avec la mise en scène à une forme de réalisme qui ne fonctionne pas, hein, non. Évidemment,
c'est en ça que moi je me dis, je pourrais pas changer d'avis là-dessus. Pour moi le film est un échec quelque part, parce que cette dimension là chose que je trouve vraiment géniale dans Minority Report est un film que je trouve une bonne façon de comparer, parce qu'en fait il a le exact bon dosage. Alors tu me diras AI aussi, mais de façon plus claire, c'est un conte, c'est une relecture de Pinocchio, mais Minority Report est un film qui se pose de façon plus comme un film réaliste. Tout film d'anticipation qu'il soit,
voilà.
C'est un film qui veut créer un univers relativement cohérent, tout ça, mais qui est bourré de trucs absolument magique, enfin, ou incohérent, très bizarre. Moi je pense, j'aime beaucoup ce film, et il y a un truc qu'on peut retrouver dans le film, c'est quand il traverse les différentes baraques de Tom Cruise et qu'il s'écrase d'étage en étage. On va avoir dans le premier étage des gens qui mangent, dans le deuxième étage quelqu'un qui dort, l'autre dans l'autre, le dernier qui chie. Tu dis, il est en train de traverser un colon, c'est très étrange.
C'est un film sur le corps humain, quand il va chercher ses yeux.
Donc il y a tout un truc très sur le corps qui est très étonnant. C'est vraiment une image qui devient un corps, qui s'incarne peu à peu.
Sans faire du Cronenberg, quoi.
Des trucs très magiques aussi, où il va reprendre à son compte cette idée d'Hitchcock, du mec de la chaîne de montage de voitures, où Hitchcock avait raconté ça à Truffaut. Moi, j'aimerais bien montrer la chaîne de montage d'une voiture, et hop, la voiture, elle sort, on ouvre le coffre. Il y a un corps dedans. Bon, il le reprend un petit peu de façon un peu déviée, Spielberg, en disant il y a une voiture qui est en train de se faire dans une industrie du futur, et Tom Cruise est dedans à la fin, quoi. Donc il y a des tas de ruptures avec le pacte réaliste, des trucs qui vont rester un petit peu inexpliqués, des personnages qui sont un petit peu over the top. C'est un film qui est passionnant à analyser, qui tient la route un peu à la manière des De Palma, où tu dis c'est incroyable tout ce qu'il raconte sur les images dans le film.
Et t'es embarqué par le spectacle.
Et t'es embarqué aussi par un spectacle qui est hallucinant, parce que là, c'est vraiment une course-poursuite de 2 heures, quoi. Et là, je trouve que l'équilibre est pas tenu.
Non, il est pas tenu. Comme tu disais, il est trop dans le concept, justement. Trop dans l'écriture. Je pense qu'il a pas choisi le bon scénario. Je pense que David Kopp, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Il est trop lourd dans sa écriture et dans sa mise en scène aussi. Moi, j'avais vu Hypnose notamment, qu'il avait réalisé, et le type est à la main trop lourde tout le temps, en fait, quoi. Il peut avoir des idées très intéressantes, mais en fait il trouve pas forcément le moyen de trouver l'image cinématographique pour le faire. Peut espérer d'un Spielberg, justement, qu'il soit capable de traduire ce concept là en image, et qu'il n'ait pas à passer par des personnages ou des dialogues qui sont vraiment
tous les trucs sur la foi, il manipule quand même des concepts quand même qui sont
et là c'est
con,
trop beaucoup,
hein,
et foi, voilà, comme on disait, voilà, c'est con, hein, mais c'est un peu le film pour fans de Spielberg, pour justement aller un peu plus loin dans justement son idée et son concept du cinéma. Et encore une fois, c'est des personnages et des situations, pour moi, qu'il n'avait pas forcément abordé, même si on a de temps en temps à faire un palimpseste de ce qu'il a pu faire, et on retrouve évidemment toutes ses idées, tous ces machins, hop, mais pas bien organisé, et surtout pas ça manque de cinéma en fait à un
ouais,
moment.
Ouais, c'est pas organique, l'ensemble n'est pas organique. Enfin, tous les mélanges, enfin tous les.
Mais il n'empêche que voilà, j'étais ravi et je retrouve voilà, tous les fans de Spielberg ont retrouvé les plans, les images de Spielberg. En plus, il a toujours la lumière qui rappelle justement ce qu'il a créé au début des années 2000, hein, parce que c'est nouveau. Hein, c'est nouveau, ça a 25 ans. Mais dans les années 80, il le faisait pas, c'était pas la même.
Bien sûr. Mais là en fait. Après, c'est une sorte de oui, vraiment de radicalisation presque, parce qu'effectivement, oui, depuis qu'il a commencé à travailler avec Janusz Kaminski, donc dans les années 2000, ouais, il y a ce truc de jouer vachement avec les raies de lumière et tout. Moi, dans le film, là, ça me fatiguait.
Pour tous les étudiants en cinéma qui veulent faire un mémoire sur Spielberg, ils auront de quoi faire.
Bah ouais, c'est tellement outré. Voilà, la lumière, la révélation. Bah du coup, si on est en entre-deux, ça clignote parce qu'il y a de la lumière de la nuit, tout ça. Tu dis, ah, c'est chaud quand même. C'est compliqué.
Disclosure Day de Steven Spielberg, toujours à l'affiche dans tous les cinémas. Je suis ravi pour lui. Ça fonctionne un petit peu, ce qui lui donnera peut-être les moyens, justement, de faire enfin son western. On fait une pause musical avec des extraits croquignolesques et on se retrouve après pour parler de la ballade de Gregorio Cortez qui sort en Blu-ray chez Canal dans la collection Make My Day.
Ok petit, voilà le tableau. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Des chauffeurs de taxi quoi.
Non, il n'y en a pas tant que ça. Les humains pour la plupart ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses.
Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents.
Une personne sûrement, mais on fout, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, t'étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain.
En el condado del Carmen, miren lo que ha sucedido. Murió el sheriff mayor, quedando Roman herido. Por la mañana, cuando la gente llegó, unos a los otros dicen, no saben quién lo mató. Anduvieron informando, como tres horas después, supieron que el malhechor era Gregorio Cortés. Exhortaron a Cortés por toditito el estado, vivo muerto que se aprenda, porque a varios ha matado. Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano, no siento haberlo matado, al que siento es a mi hermano. Cortés, con su alma muy encendida, no siento haberlo matado, la defensa es permitida. Gregorio le dice a Juan, muy pronto lo vas a ver, anda, háblale a los sheriffes que me vengan a prender. Los americanos, si lo vemos, ¿qué le hacemos? Si le entramos por derecho, muy poquitos volveremos. Agarraron a Cortés, ya terminó la cuestión. La pobre de su familia la lleva en el corazón.
Son
Donc ce repas est délicieux.
Ah oui, excellent.
Ah, bien est arrivé. Si le capitaine McDonald s'était chargé de l'affaire, on n'aurait pas perdu autant d'argent des contribuables.
Mais tu les temps changent.
Il se serait pris une balle et on n'en parlait plus.
Raison pour laquelle le Capitole songe à congédier les Rangers. Le Texas va rentrer dans le rang économique et il va falloir accepter toutes les lois.
Et qu'est-ce que tu feras de ton cheval? Message compris.
Difficile de changer de cap, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace.
Mais je te comprends.
T'as raison, non, vieux.
Les temps ont changé. De nouvelles lois se généralisent dans le pays. Tout évolue si vite.
Ouais. Avez-vous tout ce que vous voulez?
Une serviette. Moi, je voudrais bien une serviette.
Donne-nous des bières bien fraîches.
Tout de suite.
Hé, Blanc-Bec.
À l'instant, on a pu entendre un morceau, la balade de Gregorio Cortés, un corrido, une chanson traditionnelle mexicaine hein, qui est influencée par des histoires vraies, par un récit. Et là, c'est justement le récit de Gregorio Cortés. Donc, c'est un film de 1982. C'est Robert Young ou James Young? C'est Robert Young. Robert Young, qui est un cinéaste que je ne connaissais pas. Le film, d'ailleurs, je ne le connaissais pas non plus. Hein. Cinéaste qui démarre fin des années 50 et qui termine dans les années 2000, qui est mort l'année dernière à quasiment 100 ans et dont on n'a jamais entendu parler en France, hein, mis à part peut-être pour ceux qui ont regardé Battlestar Galactica, qui ont vu son nom générique, comme celui hein, de Olmos, comment il s'appelle, c'est James...
Edward James Olmos.
Edward James Olmos, que nos auditeurs connaissent parce qu'ils l'ont déjà vu, notamment pour son apparition dans Blade Runner, impressionnante apparition.
D'ailleurs, on peut signaler pour l'anecdote que voilà, il y a moitié du casting de Blade Runner dans la balade de Gregorio
Cortés, oui.
Parce qu'il y a aussi Brian James et cet acteur dont j'ai oublié le nom mais qui joue l'ingénieur informatique qui est pris en otage par les réplicants.
Voilà. Et donc la balade de Gregorio Cortés est inspirée d'une histoire qui s'est passée en 1900 à la frontière mexicaine d'un Mexicain qui vit aux États-Unis, qui ne parle pas anglais, hein, qui parle uniquement espagnol, accusé du vol d'un cheval. Et puis pendant l'arrestation, ça se passe mal. Il y a le shérif qui est tué, il y a le frère de Gregorio qui est tué. Il part en cavale, il se fait arrêter, il va avoir un procès. Voilà, pour grosso modo, l'histoire. Ce qui m'a déjà fasciné, il y a deux choses quand même qui m'ont fasciné un peu dans ce film, c'est déjà de pas en avoir entendu plus parler. J'avais uniquement vu en fait le film était sorti en Blu-ray chez Criterion, le célèbre éditeur américain qui fait des objets absolument merveilleux et bien évidemment il y avait une jaquette qui était très très belle et j'avais vu passer le truc, mais bon ils en font beaucoup des très belles jaquettes Criterion et je peux pas regarder tout ce qui sort. Là c'est Make My Day qui le sort en Blu-ray. Alors c'est pas la même pochette, mais c'est peut-être très bien ce qu'ils ont fait, mais bon c'est pas à la hauteur je pense du Criterion. Mais c'était l'occasion quand même de jeter un coup d'œil à ça. Et ce qui m'a foutu sur le cul très très vite quand même, c'est l'espèce de rigueur dans la mise en scène qui rappelle plus du Sidney Lumet que du western italien des années 70. Ouais. Hein. Notamment par justement ce rapport à la culture mexicaine et à la langue. Donc ce côté, bah voilà, les gens qui ne se comprennent pas, qui se traduisent mal, sera très important dans le film. C'est même la base du conflit, hein. C'est un problème de traduction en fait, volontaire ou non, mais un problème de traduction. Et puis on va vraiment montrer le quotidien. Il y a un côté, on va chercher le réalisme, limite le documentaire parfois, qui va être modifié, enfin qui va être mise à mal parfois ce réalisme par une bande originale qui oscille entre justement cette chanson traditionnelle qui revient régulièrement et puis une autre musique un peu plus électro, des nappes de synthé un petit peu mais un peu froide mais que j'ai trouvé géniale, enfin qui collait extrêmement bien justement à cette chasse à l'homme entre guillemets, qui va aussi travailler d'écriture en mode un petit peu Rashomon, c'est-à-dire qu'on va revoir les événements mais de différents points de vue et ça fonctionne extrêmement bien en termes d'écriture. Moi j'ai trouvé ça fascinant en termes de mise en scène, je trouvais ça d'une rigueur assez exemplaire. Et en termes de jeu d'acteur, bah, Edward James Olmos, justement, notamment, mais pas que, qui est brillant. Et je me suis dit, mais putain, c'est fou. En effet, j'ai vu sa tronche un peu partout pendant des décennies. Et je me suis rappelé que, bah, il avait aussi été metteur en scène, qu'il avait une collaboration avec Robert Young, justement, assez longue pendant 20, 30 ans. Ils ont tous les deux collaboré. Mais que ce soit chez nous ou aux États-Unis, visiblement, ça manque un petit peu de visibilité, quoi. C'est grosso modo ce cinéma qui serait mêlé Amérique du Sud et puis États-Unis, qui a peut-être, c'est ce qu'on disait hors antenne avant de faire l'émission, qui a peut-être une visibilité dans certains cercles culturels américains et peut-être ailleurs, mais qui chez nous n'a pas eu de résonance du tout. Mais au-delà de ça, le film, moi, m'a laissé un petit peu sur le cul par la surprise, en fait, il est super, ce film.
Ah ouais, il est vraiment
pourquoi
super.
Pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi on n'en a pas entendu parler avant? Un film de 82, déjà un western des années 80, c'est suffisamment rare pour être évoqué. Et en plus de cette qualité-là, c'est...
Ouais, c'est vraiment une super surprise. Et effectivement, bah, c'est à se poser des questions. Alors, parce que moi, je sais qu'Edward James Olmos, je ne sais plus si tu l'as évoqué, mais c'est aussi un metteur en scène. Hein. Nous, il est en fait archi connu parce qu'il joue dans un film archi connu, parce que c'est évidemment le chef de, enfin, en tout cas, celui qui missionne Harrison Ford dans Blade Runner. Donc, moi, pour moi, Edward James Olmos, c'est lui. Mais en parlant avec des amis mexicains, ils disaient, ah, non, Edward James Olmos, c'est un metteur en scène, quoi. Il a fait des films qui pour les amis mexicains que j'avais, ils me disaient, mais non, il a fait des films super. Je disais, bah oui, mais évidemment, après, ce qui me fait dire, peut-être que je me gourre complètement, mais c'est que, bah ouais, il y a dû avoir tout un courant de films américains, enfin de d'argent américain fait pour un public mexicain qui évidemment était hyper nombreux, et ces films là sont peut-être tombés dans l'oubli parce que c'était des films qui étaient peut-être ciblés. Alors autant on peut on a la Blaxploitation qui a pu émerger, qui a pu atteindre le plus grand monde parce que
aussi parce que la Black Exploitation c'était réalisé par des blancs, en fait.
Peut-être
qu'il
y a
souvent,
ça,
hein,
peut-être que c'était réalisé par des blancs, peut-être, voilà, pour différentes raisons. Mais ça, c'est assez génial. Enfin, c'est ce qu'on disait aussi lors de nos précédentes émissions, c'est que c'est assez cool dans une année cinématographique, elle est aussi ponctuée de ce genre de redécouverte, parce qu'on dit, mais on a vraiment envie d'en savoir plus pour découvrir une veine qu'on ignorait complètement du cinéma américain. Et peut-être que, voilà, cette veine-là, elle peut commencer, commencer en tout cas, pour moi en tout cas, elle peut commencer dans ce film-là, où je me dis, ouais, Robert Young, qui est, il me semble en tout cas un pur wasp, hein, mais Edward James Olmos qui est vraiment assez impeccable dedans. Moi, je partage complètement ton enthousiasme, et surtout sur ce truc très étrange qu'il y a de mélange entre quand même un western qui est quand même plutôt hyper réaliste, j'ai envie de dire. Il y a même des séquences qui propose vraiment une vraie joie de spectacle parce que c'est hyper réaliste. Je pense notamment à cette track avec ces rangers, ces Texas Rangers qui poursuivent des gens. Et puis avec deux chevaux, et puis sautent de chevaux en chevaux pour laisser reposer l'un et tout ça. Et puis ils le font en direct. Tu dis, c'est génial parce que là tu vois le travail. Ça, c'est le fameux truc du cinéma américain où en fait c'est trop fort quand ils arrivent à filmer une pure action. Ils arrivent aussi à filmer des gens, des professionnels et tout ça. Et là tu dis, ouais, putain, la valeur ajoutée que ça, ce truc là dans une scène d'action.
Il y a une valeur crédibilité.
Oui,
énorme,
carrément.
En fait.
Je pense à cette scène aussi de repas
où ils
boivent du café.
J'ai peu d'exemples dans le cinéma américain qui vont être capables, justement dans la fiction, d'être capables d'allier cette rigueur historique et puis de crédibilité avec un sens entre guillemets du spectacle. C'est-à-dire qu'on est dans le western quand même. Delmer Daves qui avait essayé dans les années 50 de faire des choses similaires, mais pas avec un sujet aussi dur. Et je pense que si Lumet avait dû faire un western, ce qu'il a jamais fait, ça aurait pu ressembler à ça, en fait, en sachant, ça me fait penser peut-être à Lumet parce que justement ça se termine aussi avec un procès, parce qu'il y a des vraies questions en fait de droit, de légalité, de justice, de morale qui sont abordées dans le film en fait, qu'on n'aurait pas eu forcément avec un Delmer Dave ou avec un autre cinéaste qui aurait voulu évoquer cette même histoire. La même histoire a pu être traitée vraiment de façon très très différente par n'importe quel autre cinéaste qui aurait pu avoir un ancrage en tout cas dans une forme de réalité. Là on voit le passage, en plus on est en 1901, c'est-à-dire qu'il y a les premières autos qui arrivent, il y a des choses comme ça. On retrouve un décorum que Peckinpah a lui-même abordé en fait, mais là il y a vraiment quelque chose de... On se moque un petit peu en fait des apparats du western. On cherche pas à faire un western comme les Américains le font en fait. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est raconter cette histoire qui est dans ce décorum. Voilà.
Oui. En fait, il y a pas le lyrisme qui peut être propre un petit peu au western ni rien. Mais par contre, oui, il y a une beaucoup de registres, de tons différents qui sont employés, ou surtout de registres de points de vue qui sont employés, notamment vraiment un registre qui est vraiment au plus près du réalisme à travers certaines scènes d'action, même des scènes de repos. Je pense à cette scène de repas, où ils croisent un cow-boy ou je sais pas quoi, un trappeur, j'en sais rien, et qui sont en train de boire des cafés, ils se comprennent pas parce que l'un parle anglais, l'autre parle l'espagnol, et puis en fait ils bouffent des trucs. Voilà, ça c'est super. Et une sorte d'auteur de vue à des moments où il y a ce personnage du journaliste qui est là, c'est pas du tout à l'homme qui tue à Liberty Valance et tout ça, c'est pas vraiment une volonté réflexive ni rien, il y a pas celui qui écrit la légende, c'est pas Unforgiven, enfin Impitoyable, c'est pas ça, mais par contre on sent qu'on est dans cette volonté de transcender ou de vouloir montrer que à travers cette histoire là on raconte plein d'autres choses, mais sans non plus vouloir faire le malin, toujours en restant quand même au cul du bétail, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Et c'est vraiment un film génial.
Un western au cul du bétail, c'est La Ballade de Gregorio Cortés de Robert Young. Ça sort en Blu-ray dans la collection Make My Day chez Studio Canal, et puis Disclosure Day de Steven Spielberg, qu'on peut bien évidemment voir dans tous les cinémas. On se quitte puisqu'il est temps. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast sur le site de Canal B, et puis le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Et on se quitte avec quoi J'ai oublié.
Alors moi aussi j'ai oublié.
Avec Contact, non, c'est pas
non,
Contact.
Avec Rencontre du troisième type.
Rencontre du troisième type. Tiens, du Spielberg pour finir. Merci à vous, à très bientôt. Ciao.
Des bisous.
Dis donc Roy, la semaine dernière, tu avais dit que cette semaine, tu nous emmènerais tous au ciné. Chérie. Et tu nous avais promis un golf miniature, tu te souviens?
Ah oui. Tu sais ce qu'on a dans ville? Pinocchio.
Je veux pas de ça sur ma table.
J'ai jamais vu Pinocchio. Et les enfants, vous connaissez pas Pinocchio, vous allez adorer.
Oh, c'est mieux d'aller voir un dessin animé débile, y a que les enfants qui vont voir ce truc-là.
Quel âge tu as?
8 ans.
Tu veux avoir 9 ans?
Ouais.
Alors tu verras Pinocchio demain soir.
Finalement, je vois que t'as trouvé la bonne méthode pour convaincre les enfants.
Oh, je plaisante, quoi. Ce que je veux dire, c'est que Pinocchio, c'est toute mon enfance. Et comme les enfants sont encore des enfants, ils pourraient aimer ça. D'accord. Ça va, j'ai tort. J'ai tort, ça va, j'ai tort, je le reconnais. Tant pis, je vais te casser la tienne de tête. Viens par ici. Bon, très bien. Alors voilà. Je vais vous laisser le choix. Je vais être tout à fait démocratique. Demain soir, ou bien vous jouez au golf miniature avec les queues, les bousculades, les balles perdues, et pour finir avec 1-0, ou on voit Pinocchio avec des tas de petits animaux en plus et des trucs magiques et tout et tout et tout. D'accord ? Alors on vote.